Quelle joie de vous voir ce matin et de vous transmettre les bonnes salutations de vos frères et sœurs de Genève, le bout du lac, le bout de la Suisse. On se demande parfois, est-ce qu'on est encore en Suisse, dans ce coin de pays où se rencontrent à peu près toutes les nations du monde, et où Benjamin, d'ailleurs, votre pasteur, a travaillé aussi pendant un certain temps, où j'ai eu la joie de le rencontrer dans les pastorales genevoises dans lesquelles nous sommes très actives. Et l'église de Réveil a sa place dans la ville depuis 83 ans. Saviez-vous que les églises de Réveil existent depuis 1935? Les aînés parmi vous le savent. Il y a une historique, il y a une origine, il y a un feu qui a été allumé, il y a quelque chose qui a été reçu de la part de Dieu à cette époque-là et qu'aujourd'hui nous transmettons, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu vécue. Incarné dans notre vie, qui est transmise à une population qui et à une vie qui a changé et qui est en constante mutation depuis ces dernières années. On dirait que cette mutation est en crescendo, en accélération. Avez-vous remarqué que nous sommes dans un temps d'accélération de toutes sortes, dans la nature, mais dans les communications, dans la vie tout court et dans l'Église aussi? Parce que Jésus revient bientôt et il veut trouver une église qui l'attend, une église qui est en marche, une église qui est vivante, une église qui est active auprès comme au loin. Une église qui a un cœur large. Quelques mots sur moi. Comment ça se fait, Seigneur, que tu as été pris, que tu as été prendre un garçon dans un petit village où il n'y avait même pas 100 maisons? Dans un coin de pays, tout à fait à l'est en Belgique, coincé entre Luxembourg et l'Allemagne, où il n'y avait rien d'autre que l'église du village et la religion de notre pays. Personne d'autre ne connaissait autre chose que l'église du village, l'église catholique du village. J'ai dû attendre l'âge de 21 ans pour rencontrer pour la première fois des chrétiens qui m'ont parlé, qui ont rayonné, qui m'ont regardé, qui m'ont communiqué que Jésus était vivant et qu'il m'aimait, qu'il s'intéressait à moi. Et qui m'ont aussi dit que j'avais besoin d'être en règle avec Dieu. Moi qui allais à la confession tous les 4 mois, qui allais répéter les mêmes choses tous les 4 mois à peu près, qui ne croyais pas être un parmi les pires ni parmi les meilleurs. Mais quand on m'a parlé de la repentance, il y avait une résistance en moi. Mais quand j'ai dit « Seigneur, j'ai besoin de toi », j'ai formulé une prière qui se tenait en 2 phrases. C'est ce jour-là que quelque chose s'est passé. Nous nous sommes endormis avec ce jeune qui m'a conduit au salut, un certain 16 septembre 1976. Et le lendemain, j'étais quelqu'un de différent. J'ai reçu ma première Bible. Je n'avais pas de Bible. Je n'avais jamais vu de Bible. 21 ans, pas de Bible, pas de témoignage. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous confiez votre vie au Seigneur, il vous prend au sérieux. Il vous prend au sérieux. J'ai confié donc ma vie au Seigneur. J'étais aux études, j'étais en cursus d'ingénieur industriel, qui est une école qui forme des ingénieurs pour le bassin minier de charbonnage et d'aciérie de Liège. Et lorsque, à la fin de mon cursus, et la carrière s'ouvrait brillamment devant moi, j'avais des offres qui arrivaient, j'en avais toute une série. Et lorsque j'ai enlevé tout ça pour me diriger vers une école biblique, la vie s'écroulait pour mes parents. Je suis l'aîné de 4 enfants. Et quand vous confiez votre vie au Seigneur, il vous prend au sérieux. Il vous guide. Il sera avec vous dans tous les passages, même les plus fins, les plus étroits, les plus difficiles. Il est là, et je peux le dire avec autant d'années de parcours chrétien, que c'est merveilleux d'appartenir au Seigneur. C'est merveilleux de pouvoir le servir. Je n'ai pas réalisé que j'avais un appel sur ma vie pendant longtemps parce qu'on ne m'avait pas parlé de cela. Mais on m'avait simplement entraîné avec les autres jeunes de témoigner dans la rue, de donner mon témoignage, de me rendre disponible, simplement. Ensuite, par un concours de circonstances qui serait trop long à raconter, j'atterris dans une école biblique que je ne connaissais personne et que je ne connaissais pas, et qui ne m'avait même pas été recommandé vraiment. Et c'est là que pour la première fois, j'entends la voix de Dieu. C'est ici que j'ai rendez-vous avec toi. Diplôme en main, on ne va pas travailler, mais on se forme dans une école biblique. Pourquoi ? J'avais juste une chose dans mon cœur, j'avais soif de Dieu. J'avais soif de Dieu et de connaître cette parole que je ne connaissais pas. Et de fil en aiguille, le temps a été le temps de la formation, 2 ans et demi, ensuite les stages ont commencé, d'abord au Danemark, ensuite en Belgique. Et c'est là que, voyez-vous, la mission dont nous allons parler ce matin, c'est simple, c'est se rendre disponible. C'est de dire « Seigneur, me voici ». Nous avons chanté « Seigneur, je te donne ma vie ». Ce n'est pas un chant seulement, c'est une implication de vie pour demain matin et dans les temps à venir. Et lorsque, après mon stage de la première année, j'ai été impliqué dans la radio, nous avions démarré, enfin l'Église avait démarré une radio chrétienne qui était tout au début de la libération des ondes des radios libres en 1982. Et tout à coup, n'y connaissant rien, propulsé dans un univers tout neuf, mes amis, si vous voulez faire de la mission, vous devez oser quelque chose. Vous devez faire des pas que vous n'avez jamais faits. Vous devez faire des pas et vous voyez là, quand vous faites le pas, que Dieu est avec vous, que Dieu vous forme, que Dieu vous façonne, que Dieu vous utilise même, que Dieu vous bénit. Mais tant que vous avez la théorie mais que vous ne faites aucun pas, rien ne se passera. Donc en embranchant les choses, l'animation radio est devenue donc une première expérience. Et puis après est arrivé un deuxième pas. À la fin de ces années de stage, je me suis marié en 1984. Et là est arrivé l'appel du Macédonien. Avez-vous entendu parler de cela ? L'appel du Macédonien. Qui peut me dire où ça se trouve dans les livres des Actes ? Chapitre 16. Acte 16. Paul et son équipe sont en train de chercher leur voie. Ils évangélisent, ça marche, mais c'est pas ça. Ensuite, ils vont ailleurs. Et là aussi, il nous est dit que le Saint-Esprit ne leur donne pas le feu vert pour rester là. Mais tout à coup, d'une autre manière, par un rêve, est arrivé, par une vision nocturne, est arrivé le cri du Macédonien, quelqu'un d'un autre pays. Ils ont reconnu, ils ont déduit, c'était quelqu'un qui venait d'une certaine région, qui disait « Viens, secours-nous ». Alors, je n'ai pas eu un rêve, mais mon pasteur a eu un téléphone qui dit « Hé, ton jeune là qui fait de la radio, tu peux me l'envoyer ? Nous aussi, on démarre une radio ici et j'ai besoin de lui. » Alors, Seigneur, est-ce que je suis appelé à ça ? Seigneur, quand même, quitter le pays, quitter tout ça, qu'est-ce que vont dire les uns, les autres, nos églises, nos parents ? Voyez-vous, j'aimerais vous donner une autre clé, simple. L'évangile est simple, à la portée de chacun d'entre nous. Ce mot s'appelle obéissance. Ce mot s'appelle soumission. Combien de chrétiens ont de grands appels ? Ils ont reçu même, par la grâce de Dieu, des confirmations prophétiques. Mais ne bougent pas, n'obéissent pas, n'osent rien. Ne se soumettent pas. Mes amis, croyez-vous que j'avais compris mon appel à cette époque-là ? Non, j'ai simplement dit oui. Nous avons dit oui. Nous avons tout laissé et nous sommes partis en Corse pour démarrer la radio locale, Radio Vie Nouvelle, là-bas. Pendant 3 ans, nous avons fait cela dans un cadre qui était un lieu de formation pour nous. Une petite communauté, 25 personnes, pas de jeunes, 4 enfants. Ma femme avait laissé une église où elle gérait toute l'école dimanche d'une grande église pour venir avec moi dans une communauté de 25 personnes où il n'y avait même pas d'enfants, juste 4 enfants. Pour faire un travail qu'elle n'avait jamais fait. Quand on veut faire de la mission, il faut oser des choses qu'on n'a jamais fait. Il faut obéir. Mais c'est vrai que la mission, ce n'est pas seulement répondre aux besoins. Parfois, ce n'est pas seulement répondre aux besoins parce que les besoins sont multiples, sont infinis. Nous ne pouvons pas courir sur tous les fronts et répondre aux besoins. Il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Une autre clé. Laissez-vous continuellement diriger par le Saint-Esprit. J'aimerais dire que nos églises de réveil ont besoin d'être imprégnées de la marche par l'esprit, de la vie de l'esprit. Il faut la vie de l'esprit dans nos églises. Et ce n'est pas des manifestations exubérantes qui vont faire cela ou qui vont faire la différence. Mais être conduit par l'esprit, c'est être soumis au Saint-Esprit, c'est de lui laisser la place. C'est dire, Seigneur, j'ai soif et j'ai faim, que le Saint-Esprit me dirige comme tu as dirigé les premiers disciples dans les Actes des Apôtres. Nous voulons cela, c'est ça. La vie de l'Esprit est capitale, fondamentale. Après de nombreuses années, les appels sont arrivés. Personnellement, c'est ma vie, c'est mon témoignage, mais je n'ai jamais postulé nulle part. On est toujours venu me chercher quelque part et on est venu me demander et j'ai répondu à quelque chose, à une mission quelque part. Et j'aimerais répéter, quand vous donnez votre vie au Seigneur, il vous prend au sérieux. Il ne vous laisse pas là où vous êtes, il vous amène dans son école. Quand je disais que nous étions donc pour une mission particulière en Corse, dans la radio, sur cette île, l'île de beauté, l'île des vacances, c'est autre chose quand on y habite, c'est un peu différent. Mais l'école de vie par laquelle nous sommes passés a été nécessaire pour la suite. J'ai appris des choses, non pas en faisant l'œuvre pour laquelle j'étais appelé là-bas, mais Dieu m'a dit, tu es dans mon atelier maintenant et je vais te façonner. Je vais commencer à... Et je vais continuer à t'émonder pour que tu sois de plus en plus un vase comme je veux que tu sois. Un outil qui sera utile entre mes mains. Donnez votre vie entre les mains du Seigneur. Obéissez. Soumettez-vous au Seigneur. Et vous irez loin. Vous irez loin avec Dieu. Restez petit devant Dieu. Restez humble. Et il vous utilisera. Et vous savez, Dieu nous utilise quand nous ne nous rendons même pas compte qu'il nous utilise. Il aime se glorifier au travers de gens qui ne se prennent pas au sérieux, qui ne se prennent pas la tête, comme on dit. Nous n'avons rien à voir avec du bling-bling et du show et de la prestation. Laissons-nous utiliser parce que Dieu inscrit quelque chose sur nos cœurs avec des lettres indélébiles, avec son encre à lui. Il inscrit sa loi et sa parole, sa vie, il imprime sa vie sur les tablettes de notre cœur pour que nous puissions être une lettre ouverte devant les autres. Qu'est-ce que la mission ? Premièrement, la mission, c'est prendre au sérieux l'appel missionnaire, l'ordre missionnaire, Matthieu 28. Matthieu 28, les derniers versets sont l'ordre missionnaire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours. L'ordre missionnaire doit être quelque chose qui ne doit pas juste surgir le jour d'une journée missionnaire, mais ça doit être dans l'ADN des églises de réveil. Dans l'ADN, c'est quelque chose qui doit être actuel, actualisé, être vivant dans nos cœurs. La mission, c'est réaliser son besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand vous êtes auprès, comme au loin, au contact des difficultés, des défis, de l'opposition spirituelle, de l'oppression spirituelle, de la solitude et de toutes ces choses, vous avez besoin impérativement de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli, je ne peux pas me permettre de vivre simplement comme ça et comptant sur mon expérience, mes années de service, etc. J'ai besoin du Saint-Esprit, même quand je parle à un enfant. J'ai besoin de lui. Jésus disait, ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'êtes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. C'est lui qui va être la clé pour une église missionnaire. Une église qui a une vocation, une église qui rayonne, une église qui est remplie de quelque chose. Et quand l'église est remplie de ce quelque chose de surnaturel, les gens viendront tôt ou tard voir ce qui s'y passe. Ils viendront voir, ils seront touchés. Mes amis, chez nous, à Genève, nous avons plus d'une centaine d'églises évangéliques, plus d'une centaine sur le territoire du canton. Je ne compte pas ceux qui sont encore sur France voisine, il y en a moins. Et les gens circulent facilement d'une à l'autre. Nous avons, dans un périmètre de 300 mètres, nous avons quelques églises qui sont à côté de nous. Et les gens viennent voir, et, mes amis, là où Dieu est présent, là où Dieu est présent, les gens resteront. Les gens seront touchés. Il se passera quelque chose. Mes amis, nous devons chercher, nous devons désirer, nous devons languir après sa face pour que quelque chose se passe dans nos églises, pour que la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. L'Église, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un planning, ce n'est pas des activités. L'Église, c'est la présence de Dieu avant tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ? La présence de Dieu fait la différence dans l'Église et hors de l'Église. Et je ne veux pas quitter aucun moment l'Église pour être envoyé à droite, à gauche ou faire quelque chose sans que le Saint-Esprit ne puisse valider ces choses, ne puisse m'accompagner, que je puisse avoir ce feu vert intérieur et cette onction dont j'ai besoin. Frères et sœurs, cherchez l'onction du Saint-Esprit. Cherchez-la. Désirez-la. Même si vous ne l'avez pas demain matin en priant, en disant « Seigneur, pourquoi j'ai pas, je sens pas ?» Cherchez et vous trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. La mission, c'est regarder comme Jésus a fait. Il a pris les 12 disciples, il a prié toute une nuit pour recevoir leur nom. Et ensuite, il nous est dit dans Marc chapitre 3, versets 16 et 13 à 16, qui sont un mot d'ordre pour ma propre vie. Ces mots disent, Jésus va dire, qu'il les a appelés, premièrement, pour venir à lui, pour les établir ensuite et pour les envoyer. En troisième position, regardez l'ordre des choses. Il ne les a pas appelés pour commencer à faire un programme particulier pour atteindre la nation d'Israël. Il a dit, je vous appelle pour être avec moi. Notre première mission, c'est d'être avec lui. C'est de vivre sa présence, d'être imprégné de sa puissance. Sa première mission, c'est de le connaître. Le connaître, c'est la vie éternelle. Ensuite, être établi, connaître ton appel, plus ou moins, ou en tout cas, commencer à faire quelque chose et grandir dedans. Je vous ai dit que l'appel pastoral est venu bien plus tard. J'ai fait de la radio pendant 5 ans, ensuite est arrivé le premier appel pour l'église de Vevey. Et ce n'est qu'au bout de quelques années, moi qui étais habitué à tout faire, et qui avait appris cela sur le tas comme ça, j'ai réalisé l'appel profond qui résonnait en moi, qui commençait à émerger lorsque j'ai laissé la place aux autres, lorsque je me suis un peu apaisé intérieurement et que j'ai été mieux dans ma peau, dans mon identité. Mon identité, c'est là que l'appel est devenu de plus en plus une réalité. Nous ne sommes pas juste dans une ligne directrice, un appel précis. Nous pouvons faire un tas de choses pour Dieu en étant bénis et utilisés par lui. Donc, il ne faut pas que l'appel soit pour vous un problème. Dieu mettra des choses précises sur le cœur de chacun d'entre nous. Personne n'est oublié. Personne n'est oublié. Commencez quelque part. Suivez Jésus dans ce qu'il vous demande de faire. Je voudrais voir avec vous, encore juste, j'ai vraiment à cœur... un récit biblique que je vais maintenant aborder dans quelques instants. La mission, c'est quelque chose qui doit être avant tout dans le cœur des leaders de l'Église, des responsables de l'Église. C'est eux qui transmettent. Moi, j'ai mis des années à transmettre. C'est pour ça que j'ai toujours cru que j'avais un long terme à faire dans les Églises. Et j'ai mis des années à transmettre quelque chose qui maintenant est présent. Et je pense que, et j'espère, le jour où je ne serai plus là, ça continuera, selon les lignes bibliques. Pour transmettre quelque chose, il faut du temps. Il faut du temps. Et j'aimerais vous encourager afin que votre équipe pastorale soit déjà, vous priez pour eux, qu'ils soient remplis de cet esprit missionnaire, qui est un esprit qui s'ouvre au monde autour de nous, auprès comme au loin. Les églises qui sont très actives, et je sais que vous êtes très actifs auprès, mais aussi dans des zones que Dieu vous a confiées au loin, à des milliers de kilomètres d'ici. Ensuite, ce qui me semble très, très important, c'est de ne pas seulement être une église qui pourvoit. Vous savez, quand le nombre de contacts augmente, on sait, tout le monde sait qu'en Suisse, on peut avoir des ressources financières, entre autres. Et puis, on fait appel à nous pour cela. Et moi, je réponds à cela. Aussi, là, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Des fois, il ne faut rien répondre du tout. Mais dans les choses que Dieu nous met à cœur, il faut aller sur place, régulièrement, sur place pour prendre la température, pour voir où en sont nos envoyés, comment ils se portent, comment c'est géré sur place, etc. Non pas pour imposer notre système de façon de voir, mais il faut être en lien avec la mission dans laquelle nous sommes impliqués. Il faut être en connexion et si possible, amener des petites équipes là-bas, sur le terrain. C'est une chose que je voudrais vous dire. Ensuite, dans la prière, eh bien, priez. Pas seulement, laissez pas les pasteurs seulement prier, mais priez-vous pour la mission. Élevez votre voix dans les réunions de prière et citez leur nom. Priez pour eux. Ils ont besoin de notre prière et quand ils viendront vous visiter, vous pourrez dire, mais on a prié pour vous, on pense à vous. On ne vous oublie pas. On vous oublie pas. Je voudrais à présent vous demander d'ouvrir avec moi dans la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Actes chapitre 12, verset 25. Actes 12, 25. Et je voudrais voir aujourd'hui un peu avec quelques mots le parcours d'une personne très discrète que nous allons découvrir et voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Nous lisons dans Actes 12, 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service, s'en retournèrent de Jérusalem en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Et nous lisons encore dans Actes 13, chapitre 13, verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme aide ou comme auxiliaire. J'aimerais vous parler un petit peu de ce Jean. Qui était ce Jean, surnommé Marc ? On va l'appeler Jean-Marc. Jean-Marc. La Bible parle de Jean-Marc. Des fois c'est Jean, des fois c'est Marc, des fois c'est Jean-Marc. Jean était un jeune. On voit quelques bribes, on peut tracer son parcours, voire deviner certaines choses. D'un jeune qui était, à un moment donné, repéré. Une belle occasion se présente pour lui, lui qui habitait Jérusalem, dont la mère était une femme engagée dans le Seigneur, puisqu'il nous est dit dans Actes 12 et dans le verset 12, Actes 12, 12, lorsque Pierre a été en prison, libéré par l'ange, et lorsqu'il est passé par toutes ces portes, par ce parcours miraculeux, il s'est dit, mais où est-ce que je vais aller ? Ah, dans la maison de Marie, il y a une maison, c'est une cellule de prière. C'était la maman de Jean-Marc. Il nous est dit que c'était donc dans la... après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où un certain nombre de gens priaient. Donc il venait d'une maison où on priait. Il était un jeune, un ado, qui était au courant de ce qui s'était passé avec la crucifixion, la passion de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection. Et il a vécu tout cela de tout près, en live, dans les premiers mois qui ont suivi la résurrection et l'ascension de Jésus. Et le voilà donc à Jérusalem, qui est repéré par deux grands pasteurs, Paul et Barnabas. Waouh ! Quelle opportunité ! Les accompagner pour un premier voyage missionnaire. Barnabas était son oncle, un membre de sa famille donc, et ils sont, comme dit le texte dans Actes 13, verset 4, ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Ah, tous les feux sont verts, toutes les données sont bonnes, tout est parfait. De grands apôtres, des hommes de Dieu, utilisés par Dieu. Paul est au commencement de son ministère public, grand évangéliste, il va démarrer pour son premier voyage missionnaire. Il va voyager avec Barnabas, qui est un homme tout différent, un homme d'encouragement, fils de l'exhortation, vous vous souvenez, hein, qui avait repéré Paul et qui avait été même le chercher à Tarse pour qu'il revienne. Il n'avait pas été très bien accueilli au départ par les apôtres à Jérusalem, mais Barnabas, il a su voir ce Saul, il a été le rechercher à Tarse pour qu'il revienne. Et c'est là qu'à Antioche, leur ministère va démarrer, recommandé par le Saint-Esprit. Barnabas et Saul sont en partance et ils prennent avec eux Jean-Marc. Jean-Marc, repéré, honneur, on a pensé à lui. Vous êtes déjà dit, comment ça se fait que personne ne pense à moi? Pourquoi est-ce que personne ne me repère? Pourtant, je fais tout juste. Je sais faire des choses, mais personne ne me repère. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, Dieu va te repérer en temps utile. Fais ce que tu as à faire, fidèlement. Fais-le avec une bonne attitude. Cesse de râler, de te plaindre, de quoi que ce soit. Fais ton travail et tu seras repéré en temps utile. Sois patient, sois patient. C'est un toujours, tout jeune converti, notre groupe de jeunes était là au fond de la salle, dans la salle d'évangélisation, il y avait un appel qui retentissait et tout le groupe de jeunes s'est avancé. Nous étions tous là devant et les uns les autres pleuraient, on était touchés par le Saint-Esprit. Et j'ai dit ce jour-là, c'était tout au début de ma vie chrétienne, il y a très longtemps. Je me souviens comme si c'était hier. Je dis, Seigneur, je te donne mon énergie de jeunesse. J'étais en plein dans mes études, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais est arrivé le moment où Dieu m'a dit, tu vois ce que tu as promis là, des années plus tard. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Fais les choix. Et vous savez, quand Dieu nous parle pour faire des choix, c'est que c'est le bon moment. Parfois, on dit, j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas saisi le bon moment, ils voulaient faire plus tard. C'est encore possible plus tard, mais ce sera peut-être plus difficile. Ça vous coûtera plus. Quand c'est le bon moment, il faut dire oui, Seigneur. Et j'aimerais que vous puissiez répondre pendant que je vous prêche, vous puissiez dire, Seigneur, oui, moi aussi. Seigneur, repère-moi aussi. Et donc, cette confiance en Jean-Marc est tout à fait à son honneur, alors que peut-être il ne savait pas du tout à quoi il fallait s'attendre. On lui fait confiance. J'aimerais encore dire quelque chose de personnel. Je suis reconnaissant et je resterai toujours reconnaissant à des pasteurs qui m'ont encouragé, qui m'ont formé dans mes stages et avec lesquels je ne suis pas d'accord sur tout aujourd'hui, mais qui m'ont donné une chance. J'ai toujours dit à mes stagiaires, j'ai formé un certain nombre de stagiaires, j'ai toujours vu chez certains, je te dis, je te donne une chance ici. Je te donne une chance. Nous avons la possibilité à l'Église de Réveil de soutenir des stagiaires à plein temps. Je veux te donner une chance. Tu peux au moins essayer un temps. Et si ce n'est pas ça, tu arrêtes. Ou alors, si vraiment ce n'est pas ça, c'est moi qui t'arrête. Je l'ai aussi fait, ça. Je l'ai fait. Une fois, j'ai arrêté quelqu'un. C'est une grande responsabilité. Mais laissons les chances aux jeunes. Laissez une chance. Paul et Barnabas ils n'ont pas protégé leur ministère en disant « c'est notre ministère, c'est nous qui avons reçu l'onction et qui sommes envoyés ». Mais ils ont donné une chance à un petit jeune qui s'est ajouté comme aide. Ils ont donné une chance à ce jeune. Il nous a dit dans cette première démarche. Donc, le voyage va commencer. Ils sont partis d'Antioche et ils sont partis sur Chypre. Donc, je m'imagine Jean-Marc sur le bateau vers Chypre. Il y a le vent qui lui souffle dans le visage. C'est ses lunettes de soleil, son appareil photo. Il est en train de rêver. Ah, bientôt, je vais donner mon témoignage devant des foules immenses. Je vais aller voir les gens s'avancer aux appels. Et avec Paul et Barnabas, on va prier pour eux. On va leur imposer les mains. Ce sera merveilleux. Il est en train de rêver peut-être à un grand ministère. Il est déjà en train de se prendre pour un missionnaire. Et la Bible nous dit simplement qu'il est aide, auxiliaire. Peut-être que c'est lui qui va simplement porter la Bible de Paul. Il va porter les valises de Paul et Barnabas. Il va peut-être préparer les chevaux, parce que des fois, ils ont fait le voyage aussi à cheval. Il va peut-être simplement préparer les choses ordinaires. Il va être diacre, garçon de course, homme à tout faire, homme polyvalent. Sans ministère précis, mes amis, faites ce que vous avez à faire. Ne cherchez pas à briller sur les estrades. Faites ce que vous avez à faire. portez les valises, soyez diacre. Moi, je dis un bon pasteur, c'est d'abord un bon diacre. Un bon pasteur, c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'ouvrir la parole de Dieu et d'enseigner, mais c'est quelqu'un qui voit les choses à faire. S'il faut ranger, s'il faut nettoyer, ben vous le faites. C'est ça, être diacre avant toute chose. Et le mot « aide » veut dire en grec, c'est assez intéressant, c'est « hyperétès ». En fait, dans le langage classique, dans le grec classique, ça veut dire « un sous-rameur ». C'est-à-dire que dans les bateaux à rame, il y avait deux ponts. Il y avait ceux qui donnaient le rythme au premier pont, puis les rameurs, parfois c'était les esclaves, ils ramaient en dessous, ils écoutaient le rythme et ils passaient à l'action. C'est eux qui travaillaient sous les ordres d'un supérieur. Et ce Jean-Marc était cet auxiliaire qui veillait à l'exécution des tâches, mais ce n'était pas lui qui prenait les décisions, il était diacre doulos, et il était simplement un sous-rameur. Il se contentait de cette place. Acte 13, verset 13. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé. Mais nous pouvons deviner que ce jeune, arrivé après ses premières impressions d'aventure sur le bateau, ils arrivent donc à Chypre, ensuite ils traversent toute l'île pour arriver de l'autre côté, à Chypre, sur la région de Salamine, vers d'abord à Paphos. Et puis après, ils prennent le bateau pour aller en Turquie, sur le plateau anatolien, où il faut grimper et rentrer dans le territoire païen. Et si vous lisez, si vous regardez les traductions, Paphos, en Chypre, tout allait bien, ça veut dire bouillant. Il est plein de feu, il est motivé. Pergue, qui veut dire, où ils sont arrivés donc sur le territoire turc, veut dire lieu aride, centre du culte d'Artémis. Maintenant, la vie commence, la dureté, la solitude. Oh, j'aimerais être tellement chez maman, elle cuisinait tellement bien à Jérusalem. Oh, ça me manque tellement cette bonne nourriture. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de dormir à ras du sol. Et puis les gens ne sont pas du tout sympas ici. La vie est pénible, peu d'argent, etc., etc. Peut-être aussi qu'il a dit, mais Paul et Barnabas, c'est vraiment deux gars très différents. Je préfère mon oncle, il est plus gentil, plus doux. Paul, il est plus musclé, plus carré. Il est peut-être confronté à des situations de ce genre. Je peux très bien imaginer qu'il aurait préféré certaines choses et tout à coup, la réalité lui tombe dessus. Et il ne tient pas le coup. Il ne tient pas le coup. Il est confronté aux réalités du ministère, aux combats, aux imprévus. Les combats spirituels sont des réalités qu'il n'avait jamais entrevues jusqu'à présent. Il avait si bien commencé. Et voilà qu'il est vaincu par le découragement. Frères et sœurs, nos appels, même les plus simples, que Dieu honore, dans lesquels Dieu veut vous voir actif, seront mis à l'épreuve. C'est pas faux de dire amen à ça. Nous serons mis à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que les choses de valeur sont toujours mises à l'épreuve. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5 et suivant, il va dire « Votre foi, plus précieuse que l'or périssable, pourtant éprouvée par le feu, vous donnera finalement de donner gloire à Dieu. » Et c'est ça que Dieu recherche. Il va affiner votre vocation. Il va éprouver, mais pas pour détruire, mais pour affiner, pour épurer votre vocation, pour voir ce que nous pouvons supporter. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Alléluia. Il ne permettra pas. Il y a des passages de solitude, il y aura des larmes, il y aura des incompréhensions, il y aura des conflits à gérer, à résoudre. Mais je ne lâche pas, Seigneur. Je ne veux pas me décourager parce que tu m'as donné un appel. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Tu m'as donné les promesses nécessaires et je m'y accroche. Même loin de chez moi, loin de la communion fraternelle, je m'accroche et je ne lâche pas parce que, Seigneur, tu as dit que nul ne vous ravira de sa main. Nul ne vous ravira de sa main. Alléluia. Quels que soient les passages, et je pourrais vous en raconter pas mal, des passages étroits. Oh, quand nous étions en Corse, mais le temps me manque pour vous raconter tout cela, le temps me manque. Lorsque nous étions, en attendant notre premier heureux événement, notre premier enfant qui est né, là-bas, et que la vie de ma femme était en danger à cause d'un problème. Et quand je voyais dans l'hôpital que, je ne vais pas vous décrire tous les détails, mais il fallait amener le couteau, la fourchette, l'oreiller, il fallait amener tout ça pour qu'elle puisse survivre. Ensuite, transport d'urgence en avion sanitaire à Marseille, à l'hôpital universitaire. Nous étions tout seuls, nous ne connaissions personne. Et là, elle va naître prématurément avec seulement 1 kilo. Elle sera en couveuse pendant 2 mois et demi dans un endroit où on ne connaissait personne. On était tout seuls, loin de nos familles, loin de tout, même loin de l'Église. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Ce n'est qu'une histoire parmi d'autres. Et je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il n'a jamais permis que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et même les épreuves les plus dures ne peuvent pas vous casser. Ce qui vous casse, c'est vos problèmes personnels, sont vos soucis, sont vos conflits, sont toutes ces choses-là. C'est ça qui nous fatigue. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui nous casse. Le Seigneur prend soin de ses brebis. Il nous soigne. C'est le bon berger pour ses brebis. C'est le bon berger. Et malgré tout ce qui s'est passé avec Jean-Marc, qui a été éprouvé, qui est reparti en arrière pour les raisons que nous savons. En plus de cela, il y aura un conflit dans Acte 15, verset 36. À un moment donné, Paul et Barnabas ne s'entendent plus au sujet de Jean-Marc. Jean-Marc va recevoir un deuxième problème. Il va dire, mais maintenant les pasteurs se disputent à cause de moi. Maintenant il y a un conflit entre eux et moi j'en suis la cause. Seigneur, c'est incompréhensible, ça me dépasse. Pourquoi l'ennemi se mêle là-dedans? Parfois, il y a des conflits que nous ne comprenons pas. On ne sait pas comment ça a démarré, pourquoi c'est comme ça. Mais le Seigneur est au contrôle. Il ne permet pas qu'aucun des appels ne soit perdu. Ni l'appel de Paul, ni l'appel de Barnabas, ni l'appel de Jean-Marc a été perdu au travers de ce conflit. Alléluia! Il y a de l'espoir. Et c'est son oncle qui a cru en lui. C'est un membre de sa famille. Mes amis, quand vous n'avez plus personne, il faut que vous ayez une famille. Il faut que vous ayez une famille naturelle ou la famille spirituelle. Il faut que chacun d'entre nous sachions vers qui me tourner le jour où ça chauffe, le jour où je ne m'y retrouve plus, le jour où je ne comprends plus rien. J'ai besoin de quelqu'un vers qui je peux aller et qui a ma confiance. Il faut que tu aies une communion, une famille vers qui tu peux te tourner, chacun. Personne n'est un électron libre, personne, ce n'est pas biblique, c'est faux. Je termine et je dois comprimer les dernières pensées en quelques mots. Merci de me donner ce temps encore. Les années ont passé. Jean-Marc, on n'entend plus parler de lui. Il est parti avec Barnabas dans une direction. Paul et Silas ont été recommandés par l'Église, ils sont partis, puis on connaît le deuxième voyage missionnaire, le troisième voyage missionnaire, le quatrième voyage missionnaire. Mais, regardez, 1 Pierre chapitre 5, verset 13. 1 Pierre 5, 13. Écoutez. « L'élu qui est à Babylone vous salue, de même que mon fils Marc. » Pierre, qui a écrit cette lettre, et qui s'occupe des chrétiens persécutés, dispersé un peu partout, mais particulièrement à Rome. Il écrit à Rome, c'est la Babylone qu'il utilise comme un peu un nom de code, parce que c'est dangereux, il doit se cacher en permanence, c'est un apôtre connu. Mais il dit, je vous salue, ainsi que mon fils, Marc, Jean-Marc. Le nom de Jean-Marc est associé à Pierre. Jean-Marc n'a plus cette nostalgie de retourner chez maman à Jérusalem. Il a grandi, les années ont passé. Il est associé à l'Église qui souffre. Il est chez lui, là où les chrétiens supportent le régime de l'Empire romain des Césars et des grandes puissances de cette époque. Jean-Marc, il est avec ses frères souffrants. Il est avec eux, avec son grand frère Pierre, dans l'Église éprouvée. Il est fidèle à cette communauté-là, à cette communion-là. Et Pierre, qui lui a aussi donné une chance, souvenez-vous, Barnabas lui avait donné une chance. D'abord, Paul et Barnabas, Ensuite, Barnabas seul. Maintenant, c'est Pierre qui lui redonne une chance. Il l'appelle même mon fils. Vous savez, ce qui me touche, c'est que Pierre, il peut comprendre Jean-Marc. Pourquoi ? Parce que Pierre lui-même, il a chuté. Pierre lui-même, il est retourné en arrière. Pierre lui-même n'était pas parfait. Il n'a pas eu un parcours lisse parce que déjà au jardin de Gethsémané, il s'est endormi quand il fallait prier. Et ensuite, juste après, eh bien, quand on arrête Jésus, il va même renier Jésus 3 fois. Mais dans Jean 21, nous voyons comme Jésus relève Pierre. Et de la même manière, Jésus appelle Jean-Marc pour lui dire « Écoute, je te relève, je te redonne encore une chance. Ton ministère n'est pas fini. Ce n'est pas parce que tu es retourné en arrière pour ne plus accompagner Paul et Barnabas. J'ai encore du travail pour toi. J'ai encore quelque chose pour toi. J'ai besoin de toi, Jean-Marc. » Mes amis, le Seigneur veut nous relever. Jean 21, c'est une déclaration d'amour entre Pierre et Jésus, où Jésus va lui dire « Paix mes brebis, paix mes agneaux, je te redonne un appel. Tu es tombé, mais je te redonne un appel renouvelé. » Mais Paul, c'est un peu en suspens. Paul ne voulait pas le reprendre. Ah, la parole de Dieu. Regardez, Paul est en prison. Il est en fin de vie. Dans ses toutes dernières lettres, les écrits à Timothée, mais aussi aux Colossiens, à Philémon, c'est Paul est en prison. Et vous savez, quand on est en fin de vie, on réfléchit beaucoup. Les gens réfléchissent, les gens pensent. Regardez ce qu'il écrit. Philémon 24. « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Jean-Marc est devenu compagnon d'œuvre de Paul. 2 Timothée 4, c'est toujours dans la lettre finale de Paul. « Viens au plus tôt vers moi, dit-il à Timothée, car Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc, alléluia, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. » Ça sort de la plume de l'apôtre Paul. Colossiens 4, encore une lettre écrite de la même époque. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu les instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Oui, Paul s'est réconcilié avec Jean-Marc. Paul, qui était certainement dur et avait une vision d'apôtre, pour ce petit Jean-Marc, il a été peut-être un peu indélicat, peut-être, on ne sait pas. Mais à la fin, regardez, quelle chaleur, quelle tendresse il a donné à ce Jean-Marc. Il va, voyez-vous, Jésus, lorsqu'il est à Gethsémané, il avait besoin de Pierre, Jacques et Jean. Et Paul, en fin de vie, il n'a pas besoin de Silas ou de Barnabas ou des grands apôtres. Il a besoin de Jean-Marc, il a besoin de Luc, le médecin, il a besoin de Timothée, son petit jeune qu'il a formé. C'est de cela qu'il a besoin. Et il leur donne de la valeur, il leur donne cette importance en disant « J'ai besoin de ce jeune, il m'encourage tellement. » Il y a eu une clarification de leur relation, il a reçu le pardon, il a pardonné. Mes amis, je termine mon message. L'histoire de Jean-Marc est là pour nous dire, premièrement, que chacun a un appel. Deuxièmement, rends-toi disponible. Troisièmement, obéis, soumets-toi, fais ce qu'il y a à faire. Si tu es tombé, si tu as relâché, Dieu te donne une chance. Dieu te redonne une chance. Dieu te remet en selle, Dieu te remet en route. Tu trouveras des pères et des mères, tu trouveras des Barnabas, tu trouveras des Paul aussi, qui vont finalement réaliser qu'ils ont bien fait de miser sur toi, qu'ils ont bien fait de garder le contact avec toi. Le Seigneur ne te perd pas de vue de son radar. Ce matin, il scanne l'assemblée et il te dit « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne t'ai pas perdu de vue. » L'histoire ne se termine pas là. Et j'aimerais conclure avec cette dernière pensée. Eh bien, ce n'est pas les messages de Jean-Marc ou les messages de Paul ou les messages ou les prédications de Barnabas qui ont influencé tout. C'est la vie de Paul, c'est la vie de Barnabas, c'est la vie de Jean-Marc. qui ont fait la différence. C'est votre vie qui est une lettre écrite. C'est votre vie qui, où le Seigneur a écrit un message qui va impacter le monde. C'est votre vie qui parle. C'est votre vie qui est un témoignage. Je termine par la dernière histoire, maintenant c'est fini. C'est qu'un missionnaire que je connais depuis plus de 25 ans, qui a travaillé dans une tribu qu'on a découverte en 1978 en Indonésie. Et il était là pour traduire une partie de la Bible. D'abord, il fallait comprendre cette langue incroyable, c'est une langue tonale avec des tons différents. Et au bout d'un certain temps, il dit, Seigneur, mais c'est impossible de comprendre et c'est impossible de traduire la Bible dans cette langue. Seigneur, j'arrive plus, je suis au bout du rouleau de mes ressources, j'arrive pas. Et Dieu lui parle. Il m'a dit, depuis le jour où tu as mis le pied dans cette tribu des Fayou, tu traduis ma parole par ta vie. Tu traduis ma parole par ta vie. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Alléluia, alléluia, Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous désirons ta présence. Désirons que, Seigneur, ta présence et ton esprit remplissent, Seigneur, ce lieu et chaque cœur ce matin. Je te prie que chacun soit encouragé. Je te prie que chacun soit renouvelé. Je prie, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, cette action, cette mouvance du Saint-Esprit, cette dynamique du Saint-Esprit au milieu de nous. Et que, Seigneur, en ce jour, consacré davantage à la mission et à toutes ces belles œuvres, Seigneur, qui seront présentées et qui sont dynamiques et vivantes aussi au sein de cette communauté. Je prie que, Seigneur, maintenant les cœurs soient vivants et que les cœurs découragés soient vivifiés. Que les cœurs, Seigneur, qui se sont arrêtés, les vies qui se sont arrêtées dans le service, soient remotivés par ta puissance. Seigneur, merci pour l'exemple de Jean-Marc, ce frère discret que l'on découvre par-ci, par-là. Seigneur, son histoire est notre histoire. Cette histoire, Seigneur, est pour nous aujourd'hui. Seigneur, et je te prie, Seigneur, qu'il y ait des Jean-Marc qui soient repérés par ton esprit ce matin, repérés par des frères et des sœurs qui savent les encourager et les remettre en mouvement parce que tu leur as donné quelque chose. Seigneur, sans Jean-Marc, le monde ne serait pas complet. Sans mon frère, sans ma sœur ici présente, le monde n'est pas complet, l'Église n'est pas complète. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes agir par la puissance du Saint-Esprit. Touche les cœurs, touche les vies, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire ce matin, Seigneur, moi aussi je te donne mon énergie qui me reste, Seigneur. Peut-être que ce n'est plus l'énergie de jeunesse, mais l'énergie qui me reste, Seigneur, je te la donne ce matin. Lève ta main ce matin pour le dire au Seigneur. Seigneur, ce matin, j'arrête de discutailler, mais je me soumets et j'obéis maintenant, Seigneur. Et je fais ce qu'il y a à faire. Seigneur, je ne veux pas chercher qu'enfin quelqu'un repère mes grands dons, mais que je sois d'abord un aide, un diacre, Seigneur, quelqu'un qui porte les valises, qui nettoie les choses, qui voit ce qu'il y a à faire, qui ne fait pas de bruit, mais qui agit. Seigneur, je trouve une église à Bienne, Seigneur, qui est comme ça. Seigneur, elle ira loin avec toi, Seigneur. Et Seigneur, merci, parce que tu vois toutes les mains levées, Seigneur. Des personnes qui, ce matin, se consacrent. Et je vous laisse vous consacrer personnellement, encore juste quelques secondes, faites-le. Ayez un entretien personnel avec le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis. Seigneur, tu prends chaque offrande de vie ce matin. Et Seigneur, tu la consacres tout à nouveau au nom de Jésus. Que chacun soit consacré, mis à part, pour être témoin, et que chaque histoire soit, Seigneur, une traduction de la Bible pour un monde qui ne lit plus la Bible, mais qui lit notre vie, qui regarde notre vie. Je te prie que nous soyons des témoins dignes de ce nom, au nom de Jésus. Amen.